Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, un programme chargé, même si on n'a que 3 jeux. Mais quel jeu ? Nous allons parler de Pokémon Lune et Soleil. Ah non, du coup, on a peut-être 4 jeux, si on compte un jeu, Pokémon Lune, Pokémon Soleil. Enfin bon, bref, Final Fantasy XV et Planet Coaster. Il y a à dire sur les 3 jeux, donc on ne va pas perdre de temps. Et puis le reste, comme Monsieur Fall, vous connaissez le programme. Et je vais commencer en accueillant 3 de mes chroniqueurs favoris. Joël Métro, bonjour Joël.
Bonjour.
Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et notre spécialiste mondial d'un des jeux précédemment cités, je vous laisse deviner lequel, Camille Gévaudan de Libération. Bonjour Camille.
Bonjour Erwan, ça faisait longtemps.
Ah oui, non, c'est vrai.
On se voit jamais.
Chaque sortie de Pokémon.
C'est ça. On commence avec qui ? Avec toi Patrick.
Oui,
commençons
oui.
Avec toi.
Bah, allons-y.
Avec des briques.
Des histoires de briques. Hein. Vous vous rappelez, je vous avais un petit peu parlé là, il y a quelques semaines, de Lego Dimension et de l'OPA que faisait Lego sur les licences 80s.
Il y avait tellement de choses à dire
sur l'Agence Touriste, ouais. K2000, les Goonies, tout ce qui arrive. Donc voilà, ça c'est.
Continue pas ta chronique de
Non. En fait, l'annonce, il y a eu une nouvelle annonce de Lego ces derniers jours concernant un jeu massivement multijoueur en open world qui va sortir en février, qui va s'appeler Lego Worlds. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il va combler un des soucis qu'on avait avec Lego Dimensions, c'est que c'était pour moi des bons jeux, mais qui ne permettaient pas de construire autant que ça. En fait, finalement, on avait des packs de scénarios, etc. On s'amusait un petit peu à construire quand on avait les énigmes.
Dans les jeux Lego, on détruit surtout.
On détruisait beaucoup, c'est vrai, on passait son temps à casser des blocs, etc., mais on construisait peu. Et là, avec ce jeu, donc Lego Worlds, on est sur un jeu à la Minecraft, entre guillemets, où on va pouvoir créer des univers et des aventures à partir justement des fameuses briques, des objets Lego. Ça paraissait évident, on se dit même pourquoi ça n'existait pas depuis longtemps, parce que Lego, construction, ça paraissait totalement flagrant à faire. Donc ça va sortir le 22 février donc sur PS4, Xbox One et PC, sachant que c'était déjà disponible en accès anticipé sur Steam depuis quelques mois. On va suivre ça de près parce que ça peut être vraiment intéressant d'utiliser ce qu'on va retrouver, donc ces fameuses briques Lego qu'on connaît tous, avec lesquelles on a tous joué, dans un jeu comme ça de création qu'on pourra partager avec ses potes. Et ça peut être pas mal de les faire venir dans les univers qu'on a créés et tout ça. Ça peut être vraiment intéressant.
Ce qui est bien, c'est qu'on risque pas de marcher dessus.
C'est vrai, pas se faire mal, parce que c'est vrai qu'on se prend à Lego.
C'est un des avantages, hein, vive le numérique.
Ça peut faire très très mal. Autre info Lego, parce que c'est un des jeux que j'ai beaucoup aimé sur la Wii U, c'est Lego City Undercover qui était sorti en 2013.
Oui,
on avait parlé ensemble, qu'on avait adoré. Ouais. C'est un GTA-like exclusif à la Wii U, mais dans l'univers Lego, avec cette fois non pas un scénario venu d'une licence extérieure, ouais, comme le fait beaucoup Traveller's Tales. Je n'ai pas précisé que c'était eux qui bossaient sur le Lego Worlds. Mais là, ils avaient créé vraiment un univers Lego autour des jouets Lego City, et c'était vraiment bien foutu parce qu'il y avait plein de clins d'œil, On incarnait un policier qui pourchassait un grand méchant et on avait toute une ville à explorer. C'était vraiment bien fichu. Et en fait, Lego vient d'annoncer que ça allait sortir au printemps 2017, enfin, parce qu'on parle de 3, presque 4 ans après, sur PS4, Xbox One, PC et la Nintendo Switch, qu'on avait, voilà, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça sera l'occasion pour ceux qui n'ont pas de Wii U de découvrir ce jeu ou peut-être de profiter d'une version remasterisée avec des ajouts, etc. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un très bon jeu que auquel je reviens de temps en temps. J'aime bien me relancer parce qu'il est plein d'humour et il y a plein de clins d'œil à des séries des années 80, même décidément. Oui, oui, j'enchaîne. On reste dans les briques. Et un jeu dont on a parlé il y a quelques semaines ici, qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est Dragon Quest Builders. Et une bonne nouvelle qui vient de l'éditeur Square Enix qui annonce que plus d'1 100 000 exemplaires ont été vendus, donc c'est plutôt une bonne chose, dont 700 000 au Japon. Donc c'est plutôt un pari réussi, ce jeu qui était, on le rappelle, un mélange entre la licence Dragon Quest et puis un principe à la Minecraft plutôt scénarisé qui accompagne bien le joueur.
Un mélange. C'était un Minecraft avec
Dragon Quest. Oui, mais une grande composante scénaristique qui accompagne pas le joueur. Donc, c'est un bon mix. On en avait parlé il y a quelques semaines. Et donc, voilà, ça marche bien. Donc, voilà, on vous invite à le découvrir si ce n'est pas encore fait.
Joël, un trailer.
Un trailer, oui, juste pour signaler, Patrick, il y a des Lego Twin Peaks qui sortent.
Je note, c'est intéressant.
Alors, jeudi soir, en fait, il s'est déroulé aux États-Unis la cérémonie des Games Awards, au cours duquel, en fait, de nombreux jeux voilà, qui sont sortis au cours de l'année 2016 ont été sacrés, notamment un jeu qui a été élu jeu de l'année, un jeu que j'aime beaucoup, dont je suis très fan, c'est Overwatch, donc jeu de l'année au Games Awards 2016. Bon, là, j'ai un peu lâché, mais il y a la troisième saison compétitive qui commence, donc voilà, je vais pouvoir m'y remettre. Et donc, lors de cette cérémonie, a notamment été, voilà, il y avait pas mal d'invités, et a notamment été présenté le nouveau trailer du jeu sur lequel travaille Hideo Kojima, donc qui s'appelle Death Stranding, jeu dont on avait pu avoir un premier aperçu, enfin un premier trailer à l'E3 cette année. Alors donc dans ce nouveau trailer, moi je le trouve vraiment très beau, très joli, très intriguant. En fait on voit on voit un type qui ressemble très très fortement à Guillermo del Toro. Voilà, il n'y a pas de hasard, voilà Guillermo del Toro et Kojima avaient commencé à travailler
sur le projet. Officiellement, on sait qu'ils se connaissent très bien.
Officiellement, non.
Ils avaient bossé sur Silent Hill ensemble.
Et puis voilà, sur le fameux, sur le P.T., le jeu, moi je trouve, le plus terrifiant de tous les temps. Et donc ce nouveau trailer de Death Stranding, dont on voit ce personnage qui ressemble à Guillermo del Toro tenir. Voilà, dans un paysage un peu post-apocalyptique, il y a des avions militaires qui passent dans le ciel, il y a des chars qui ont des bouts de tentacules qui sont en train de traverser un pont. Et on voit ce type donc, qui ressemble à Guillermo del Toro tenir un espèce de pod comme ça dans ses mains, et à l'intérieur il y a un bébé. Bon, déjà c'est un peu un truc un peu bizarre.
C'est genre d'univers très serein à la
Kojima. Serein, très très pacifique et très très joli. Et ensuite on s'ensuit, la caméra va vers un long couloir où quatre ou cinq personnages, je sais plus, déboulent, dont des espèces de soldats squelettes. Et surtout aussi, on voit un personnage qui retire son casque, et il s'agit de qui ? Tadam ! Il s'agit de Mads Mikkelsen. Donc voilà, cet acteur qu'on aime. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc Hannibal, notamment, le chiffre. Et voilà, donc après Norman Reedus, qui avait été, dont on avait vu, qui était un peu dénudé dans le premier trailer. Donc là, Mads Mikkelsen. Dans ce nouveau, toutes ces nouvelles bandes annonces, que moi je vous encourage à voir, parce que vraiment une ambiance, on sent que ça va être une ambiance évidemment un peu malsaine, un peu étrange, un peu post-apocalyptique.
Sur le gameplay en lui-même,
rien. Mais ça me fait penser un peu à l'univers de monstres. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, le premier film de Guess, Guess Jared, Monstre. Enfin bon, bref, vous irez voir. Mais en tout cas, allez voir la bande-annonce, ça donne très envie.
Ouais. Petite news de mon côté, c'est l'arrivée en France de YouTube Gaming, qui était lancé en 2015 aux États-Unis et qui arrive là maintenant en France avec une appli mobile notamment, avec donc cette interface qui est dédiée, qui cherche à se placer en concurrence avec Twitch, parce que c'est ça l'objectif, parce qu'on sait très bien que sur Internet, les vidéos, il y a trois catégories de vidéos sur Internet. Nous avons les vidéos qu'on regarde comme ça quand on veut, qui sont sur YouTube. Nous avons les vidéos en live de gaming qui sont sur Twitch. Et nous avons les vidéos muettes de moins de 30 secondes sous-titrées en très gros parce qu'on ne met jamais le son, qui sont sur Facebook. Ça, voilà, c'est les trois grandes catégories.
Les vidéos de chats, quoi, aussi.
Non, c'est sur Facebook. Oui.
Sur Facebook.
C'est pas la même chose. Bon,
d'accord.
Et bref, donc, les vidéos de Facebook qui restent sur Facebook, parce que bon, c'est un peu les seuls sur les vidéos muettes,
c'est un créneau.
Hein.
Ouais,
donc, voilà, il reste les vidéos en live de gaming et les vidéos sur YouTube, et YouTube veut récupérer un peu des vidéos en live, et donc il lance ce truc qui est plutôt bien foutu. Et à cette occasion, ce qui est intéressant, c'est que YouTube a lancé des chiffres, notamment, donc il y a 25 000 jeux qui sont répertoriés dans YouTube Gaming.
C'est que du live, du coup. C'est ouais. De la retransmission
et pour,
direct
pour
de,
montrer,
de
non, c'est pas que de... du live. C'est en fait, ça sert aussi à répertorier par jeu.
D'accord.
Les vidéos.
Des stocks de vidéos sur une thématique, sur une page,
je sais pas, Minecraft, on aura aussi bien le, du live que les...
Ça.
Que les bons, je sais pas, les bons d'annonce, ouais, les... Ouais.
Et puis les let's play, tous les contenus gaming. Et en fait, pour voir un peu l'explosion qu'il y a sur ce genre sur YouTube, les utilisateurs passent 75% plus de temps à regarder des contenus gaming par rapport à l'année dernière. Autant vous dire que ça progresse.
Sur YouTube, c'est ça ? Là, c'est particulièrement sur YouTube. Hein.
Sur YouTube. Ouais. Et en fait, ils ont aussi balancé des chiffres pour la France. Il y a plus de 20 chaînes gaming avec plus d'un million d'abonnés en France. Mm-hmm. Autant vous dire que avec celle, notamment Squeezie, hein, qui est largement au-dessus de ses petits camarades. Et puis, en fait, c'est aussi sur la moyenne d'âge. Moi, c'est celle-là qui m'a un peu...
Si on s'en joue aussi, il ne faut pas
le... Ah oui, en fait, il y a les pourcentages. Hein. Pourquoi les gamers vont-ils sur YouTube ? 49% pour se divertir, 45% pour découvrir des nouveautés, 35% pour avoir des nouvelles stratégies pour les jeux, 31% pour améliorer leurs compétences, 23% pour réussir dans un jeu qu'ils commencent et 0,008% pour regarder si on s'en joue. Voilà.
Ils sont précieux, ça.
Je crois que le chiffre le plus surprenant, en tout cas pour moi, qui m'a un peu scotché, c'est la moyenne d'âge. Ah, oui. Quelle est la moyenne d'âge des gens qui regardent du gaming sur YouTube, à votre avis ?
32.
18.
15, 20, 20, je dirais, une moyenne, 20.
Bravo Camille, c'est 33 ans. 33 ans de moyenne d'âge. Et là, moi, je suis un peu tombé de ma chaise.
Ah, c'est vrai, j'aurais dit bon.
J'étais persuadé que cette audience YouTube qui est phénoménale était surtout une audience adolescente.
Ouais,
et non. Ah bon, après, il n'y a pas l'écart type. Hein. Ça se trouve, il y a énormément de seniors, hein, de plus de 65 ans, et énormément de.
Non, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt bien.
Après, c'est très lié à la moyenne d'âge des joueurs.
Bien sûr.
Voilà, c'est finalement tout le monde. En même temps, la semaine dernière, ils ont balancé, c'est un Français sur deux va au moins une fois par jour sur YouTube en ce moment. Donc voilà, c'est très logique aussi que finalement la démographie des joueurs se retrouve dans la démographie des gens qui regardent du gaming sur YouTube.
Sinon, ce serait inquiétant. Ouais.
Voilà. Et donc, c'est bien s'ils sont plus nombreux à venir sur Silence on Joue aussi.
Dans la moyenne d'âge des spectateurs de Silence on Joue sur YouTube, t'as pas de statistiques encore.
C'est beaucoup entre 25 et 45 ans.
D'accord.
Beaucoup entre 25 et 45 ans. Bref, le com des coms, on va aller très vite hein, parce qu'on a quand même un gros
point. Heureusement que j'avais pas de news, moi.
Heureusement, merci Camille. Non, tu n'en avais pas. Non, tu n'en avais pas. Voilà. Le com des coms de la semaine dernière où nous parlions de Watch Dogs 2, Alan Stan qui nous dit contrairement à Erwan, j'aime beaucoup les open world de Ubisoft. Certains plus que d'autres, bien sûr, mais je trouve que Ubi commence à maîtriser le sujet. Je pense qu'en fait, c'est plutôt la répétition dans le même univers qui est dérangeant. Son ressenti sur Far Cry Primal, donc on parle du mien où j'ai dit que ça m'était un peu tombé des mains. Je comprends, j'ai eu le même car c'est plutôt un clone de Far Cry 3 qui était lui-même un clone de Far Cry 4 qui était lui-même un clone du 3. Par contre, l'open world d'un assassin est très différent d'un The Division ou d'un Watch Dogs. Ouais, enfin, je trouve qu'il y a un ressenti pareil. Bref, Grolip14 qui dit « Je suis d'accord sur la lassitude des mondes ouverts Ubisoft à répétition, mais je mettrai dans un même sac Assassin's Creed et Far Cry. Par contre, le monde de The Division était exceptionnel de densité avec une direction artistique et une ambiance que j'avais trouvé absolument folle. Watch Dogs, j'avais beaucoup apprécié le premier. » on l'a trouvé. On a trouvé celui qui avait beaucoup apprécié le premier. J'avais beaucoup apprécié le premier, qui s'est fait beaucoup bâcher à cause du bullshit marketing d'Ubi, et c'était un peu à cause de son histoire de nièce à sauver complètement OSEF. Mais j'aimais bien l'ambiance grise et froide d'un Chicago et toutes ces nouvelles façons de jouer à travers le hacking. Le personnage, même s'il était un peu lisse, avait des côtés que je préférais à celui du 2. Il avait un côté lone wolf traqué qui privilégiait largement la furtivité en se cachant sous sa casquette et en relevant le col de son impère, alors que dans ce nouvel épisode, on a plus l'impression d'avoir affaire à un gros troll qui balance des grenades comme des gifs du Nyan Cat. Mais que, voilà, il dit quand même, il précise quand même qu'il a beaucoup aimé le jeu et il le compare même, il y a des éléments qu'il préfère même à GTA V, notamment avec les interactions avec le monde et toutes les histoires qu'on peut croiser chez les passants. Enfin, Shanghai Max, je me demande si ce n'est pas le meilleur monde ouvert made by Ubi. Très bonne surprise également pour moi, car je ne l'attendais pas du tout, n'ayant pas mis les mains sur le premier. J'aime le style visuel assez pointu, le contenu sans superflu et le côté fun qui n'est quand même pas très présent dans le reste de la production actuelle et la liberté générale de ton qui fait plaisir. Je pense qu'Ubi a envie de trouver des possibilités de n'a plus envie de trouver des possibilités de gameplay enfermées par la narration. Par exemple, dans Watch Dogs 2, on peut trouver un peu étrange que Marcus dézingue à tout va alors que ça paraît assez loin de ses valeurs de hacker. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le nouvel assassin. Voilà, c'était le com des coms de la semaine dernière. Et sans plus tarder, nous allons nous lancer dans les Pokémon. Ils sont combien maintenant? J'avais noté. 802. Ils sont 802.
802.
802 Pokémon, et c'est Pokémon Lune et Soleil. Par team 151 et nous vîmes 802 en arrivant à la 7e génération des Pokémon. 7e génération qui débarque là ces jours-ci avec Pokémon Lune et Soleil et qui débarque précédée d'une aura certaine, d'une aura internationale venue un peu sublimer comme ça le public général, enfin... qu'on connaît des Pokémon avec Pokémon Go cet été, hein, n'oublions pas, qui avait quand même un peu boosté la notoriété de cette petite bestiole.
Un petit peu chauffé tout le monde.
Nintendo en a profité, quand on voit les publicités pour cette,
Pokémon
Lune et Soleil. Hein, voilà, ouais. Maintenant, vous restez chez vous pour attraper les Pokémon. Donc voilà, comme à chaque fois, deux versions, Pokémon Lune et Soleil. Et je vais donner la parole à notre spécialiste mondialement reconnu de Pikachu. Camille, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça?
Non, mais ça serait bien d'avoir le taux de conversion, les chiffres des gens qui ont joué à Pokémon Go, qui ne connaissaient pas les jeux Pokémon, notamment les enfants qui étaient trop jeunes pour connaître les générations précédentes, et savoir s'ils s'y mettent, quoi. Parce que là, le seul chiffre qu'on a, enfin, c'est quand même un truc de taré, ils en ont sorti, leur première vague, c'était quand même 10 millions de jeux. Ouais. Ils se sont dit, on va partir avec ce stock de 10 millions, ça va permettre d'éponger les premiers jours, et puis on verra
petit,
après.
Ouais, pour ne pas avoir de rupture de stock sur les trois premiers jours, et puis après on en remet.
C'est quand même assez violent. Non,
en plus,
c'est
j'ai
toujours
des maths dématérialisés qui ne rentrent pas en compte, parce que là, les 10 millions, je crois que c'était les cartouches, mais ils se vendent aussi en démat, qui aujourd'hui se développent. Donc,
Alors, il y a un truc marrant qui se passe avec Pokémon, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération qui sort depuis plusieurs années maintenant, je me dis, franchement, j'ai joué à quasiment toutes les générations, je commence à en avoir fait le tour, c'est toujours le même principe.
C'est la 7e, c'est ça ?
7e génération.
T'as toujours 150 Pokémon de plus, en plus les noms, ils sont de moins en moins originaux, ils sont bateaux et tout, et puis il faut toujours récupérer les badges, te faire chier dans les hautes herbes, entraîner tes Pokémon pour battre, devenir le meilleur à la fin. Franchement, j'en ai marre, j'ai moyennement envie d'avoir le nouveau. Et puis, on reçoit le nouveau, Erwan me le met dans les mains en disant, tiens Camille, teste.
Tu viens dans Silence on joue, Camille, il y a un Pokémon. Hein.
Et en fait, je plonge et après, je ne fais plus que ça et ça marche super bien. Et toi, il t'arrive la même chose, tu fais
Moi, très franchement, j'avais décroché. Je me rappelle, c'était un des premiers tests qu'on m'avait confié il y a 15 ans. J'étais tout jeune. C'était le Pokémon jaune. Et bon, quand on m'avait passé ça, je me suis dit, bon, ouais, Pokémon, c'est pas mon truc. Et du coup, j'avais pris la cartouche j'avais complètement sombré. Je m'étais rendu compte du côté ultra addictif du jeu. Qui vraiment est super prenant. Et là, pareil, hein, j'avais un peu décroché. Et puis là, bon, c'est les 20 ans, il y a le phénomène Pokémon Go. Je me suis dit, bon, je vais me réintéresser un petit peu à la chose. Donc, je me suis replongé dans celui-ci. Et la recette est toujours là. Ça marche, c'est-à-dire qu'on commence, un peu comme toi, pareil, un peu dans le déni. Ouais, bon, je vais essayer, ça, 5 minutes. Mais... Et en fait, le jeu est tellement bien fichu. Il y a un côté entraînant, en fait. Vraiment, il y a un côté où on nous prend par la main, notamment dans celui-ci. Il est très linéaire, mais c'est d'autant plus, on est d'autant plus embarqué, je trouve. Puis il y a ce côté addictif. Enfin, le gameplay, il est intouchable. Hein. Faut reconnaître que le côté RPG, facile d'accès, encore plus facilité, a priori, sur cet opus-là, fait qu'on est vraiment, on s'embarque très vite dans une collectionnite, malgré soi, un petit peu. Et ça fonctionne. Enfin, moi, j'ai encore été pris dans le jeu. J'ai déjà pas loin d'une dizaine d'heures de jeu, comme ça, parce que c'est difficile de décrocher une fois qu'on commence, parce qu'on commence à voir ses personnages, on les... Voilà.
Et... Non, mais t'as très raison quand tu dis qu'on est pris par la main. En fait, c'est l'impression que j'ai eue. On est aspiré.
Surtout sur celui-là.
Dans le jeu, parce qu'il y a énormément de personnages qui viennent nous parler tout de suite, et t'as l'impression que tu commences jamais. Enfin, moi, j'attendais le moment où, normalement, on te donne le choix entre tes trois Pokémon de départ, et puis on dit, bah, allez, vas-y, va entraîner tes Pokémon, suis ton entraînement et deviens forte. Et là, j'avais jamais le loisir de commencer parce qu'il y avait tout le temps mon ami d'enfance qui vient me parler, qui m'emmène un truc. Voilà. Et puis tu rencontres plein de gens, il y a des cinématiques, on t'emmène dans des nouveaux lieux, tu découvres des paysages. Alors en plus, il y a un aspect culturel là. Donc on est à Hawaï pour le décor, ils essayent toujours de faire.
Alola, c'est ça, je crois. Mais c'est Hawaï.
Oui, c'est inspiré d'Hawaï, comme le dernier était inspiré de la France. Mm-hmm. Donc c'est toujours magnifique. En plus, tu as un petit côté culturel où ils essayent de te faire apprendre les gestes locaux pour dire bonjour. C'est la première fois qu'il y a des personnages avec la peau qui n'est pas blanche, je crois. Dans l'histoire de Pokémon, ce sont des gens du coin, ils sont mats. Ouais, et ça change.
Une sorte d'ouverture petit à petit.
Ça. Et en fait, plus ça va et plus on s'éloigne du vieux carcan du modèle de Pokémon pour plus de liberté, plus de...
Même si c'est quand même très, très drivé, enfin, moi je vois dans ma partie, j'avais plus une sensation de liberté il y a 15 ans, je me rappelle, pas à la Zelda, mais presque, c'est un peu cette sensation qui était fausse, hein, mais de pouvoir un petit peu faire ce qu'on voulait, de se balader. Là on est quand même très drivé, il y a beaucoup de portes fermées, il ne faut pas aller là, non, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles parler à un tel, on est beaucoup drivé. Et je trouve que c'est intéressant, je pense que, je ne sais pas si c'était calculé par rapport à Pokémon Go, mais le fait d'être... dans un pays exotique comme ça, on sent que c'est fait aussi pour les nouveaux entrants. Enfin, quelque part, il y a un côté, on est un petit peu dépaysé. Je pense que pour les fans aussi de la série qui, comme toi, connaissent bien, on arrive un peu dans un nouveau lieu comme ça où on découvre des nouvelles habitudes, un nouveau pays. Et je pense que c'est aussi une porte d'entrée pour des gens qui débarquent après Pokémon Go. Alors, je ne sais pas si ça a été fait pour, parce que Pokémon Go, je pense que le phénomène n'était pas prévu.
Ils avaient préparé,
Ce jeu-là, je pense qu'il est en développement depuis au moins 2 ans, j'imagine. Ouais. Enfin, voilà, je pense que ce n'était pas forcément fait pour.
C'est une direction
mais...
qui était déjà prise un peu la dernière fois. Donc, c'est dans la continuité,
Je me posais la question, est-ce que dans le gameplay des combats, ça change, ça évolue
Alors, dans les combats, c'est le truc qui évolue le moins. Il y a quelques petites nouveautés du genre... quand même, globalement, je trouve que c'est facilité, l'accès au jeu, pour les gens qui ne connaissaient pas. Tu t'emmerdes moins donc, à faire monter tes Pokémon de niveau dans les herbes. Tu as toujours l'impression d'être au bon niveau, c'est fluide, tu avances dans l'histoire tranquille. C'est compensé par quelques trucs du genre, quand tu rencontres un Pokémon sauvage, tu commences à lui baisser sa vie pour pouvoir l'attraper quand il n'a plus qu'un tout petit peu de vie dans sa barre. Et à ce moment-là, il appelle à l'aide et il y a du renfort qui arrive. Et donc, tu regardes vers le ciel, je ne sais pas pourquoi, et un autre Pokémon tombe du ciel. Normal. Et se met à côté de lui. Et il y a des moments comme ça où je passe une demi-heure à attraper un Pokémon parce que à chaque fois que je suis sur le point de l'attraper, il y en a un autre qui arrive en renfort et je peux pas lancer ma Pokéball tant qu'il y en a deux à l'écran. Okay. Donc ça.
Et je crois qu'il y a une indication qui est nouvelle, si je ne me trompe pas, qui nous indique quel pouvoir va être le plus impactant pour l'ennemi en fait. Oui. Et ça, je crois que c'est nouveau. C'est une aide en fait qui facilite aussi parce qu'on nous indique.
Il fallait l'attaque très efficace, pas très efficace.
Les rapports entre les éléments.
Feu contre plante.
Là, on est quand même drivé. Bon, ce pouvoir-là, il va être efficace. Là, pas du tout. Donc finalement.
C'est pas tout le temps affiché. J'ai l'impression que quand tu as déjà eu ce Pokémon, que du coup tu le connais, tu l'as inscrit dans ton Pokédex, et là maintenant tu as les informations et tu sais tout de suite comment ça va être efficace.
C'est un appel du pied pour les gens qui rentrent, qui vont découvrir là, qui vont avoir une facilité aussi à justement pas se prendre la tête, à prendre des notes. Et Je pense que c'est fait aussi pour faciliter la découverte de... C'est un bon point d'entrée, je pense, ce volet. Et puis, il y a aussi... Alors, je vais peut-être terminer là-dessus. Je ne sais pas si c'est aussi le phénomène Pokémon Go, mais on va vers plus de réalisme visuel. Les persos sont moins déformés. Alors, est-ce que c'est lié aussi au phénomène Pokémon Go qui prenait place dans le monde réel? Est-ce qu'il y a une volonté de cette licence d'aller vers... plus de rapport avec un monde réaliste? Tu parlais de Paris dans le précédent, là on est à Hawaï, on sent qu'il y a un rapprochement vers des réalités géographiques. Alors ça pourrait être intéressant de voir si un jour ça ne va pas merger tout ça, le phénomène Pokémon Go d'un côté, se réunir. On sent en tout cas qu'il y a une volonté d'aller vers le monde réel. Enfin, je ne sais pas si tu le ressens comme ça, toi qui connais mieux l'évolution de la série, ou c'est moi qui...
Ouais, mais je pense pas que c'est lié à Pokémon Go, parce que c'est vraiment très étalé depuis longtemps. Ouais.
Et donc, ce qui est fou, c'est que, je me rappelle, hein, sur Pokémon XY, que t'avais déjà un peu ce truc, encore un Pokémon, et puis ils avaient réussi à t'avoir un peu sur différents éléments comme ça.
Je crois que c'était la 3D.
C'était la 3D, ouais. et puis Paris, et là, en fait, ils arrivent encore à renouveler. Et c'est ça que j'ai l'impression qui est assez fort. C'est d'un côté, ils doivent séduire les nouveaux arrivants en les prenant par la main, en ne leur laissant plus un peu cette liberté de découvrir le monde, moi, qui est dangereuse, parce que si on n'accroche pas dès les premières minutes, on peut se perdre, on peut partir. Et en plus, ils renouvellent pour les gens qui avaient déjà 650 Pokémon derrière eux.
C'est peut-être là le point faible, c'est pour les gens qui ont vraiment suivi l'évolution, ou peut-être que ce titre finalement n'apporte pas forcément suffisamment de nouveautés. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Mais justement, si. Enfin, ce n'est pas des nouveautés, c'est des trucs qu'ils modifient au fur et à mesure. C'est comme si Pokémon avait une longue liste de traditions et de trucs qu'on a toujours fait comme ça. Et petit à petit, ils rafraîchissent la liste. Donc, il y a encore des trucs qui se passent comme dans les premières générations. Mais il y en a d'autres. On passe beaucoup moins de temps, par exemple, à fouiller dans les menus avant. Enfin,
oui, c'est vrai que les premiers,
au début, on avait de plus en plus d'objets. Tu avais les potions. Aride. Après, tu avais les objets pour booster les stats des Pokémon, les objets pour soigner l'empoisonnement, les objets
c'est vrai que c'était du pur RPG. Il y avait une vraie dimension.
Maintenant, ils allègent le recours au menu. Tu n'es plus en train de fouiller dans ton sac parce qu'ils trouvent des nouvelles idées. Par exemple, maintenant, il y a les Pokémon Tures. Donc, pour aller plus vite dans le jeu, on monte sur le dos d'un Pokémon. Et selon le Pokémon sur lequel tu montes, tu as plusieurs fonctions qui étaient avant tout le temps des objets. Par exemple, il y a le Pokémon qui s'appelle Mastouf qui fouille dans les herbes par terre.
Les noms sont très classe. La VF est fabuleuse.
Et qui remplace le cherche-objet. Tu montes à d'autres Dracaufeu pour t'envoler d'une ville à l'autre. Ça remplace la capsule spéciale où tu devais apprendre une capacité vol à tes Pokémon. Et donc comme ça, ils rafraîchissent, même dans le vocabulaire. Tu fais plus la Ligue Pokémon, tu fais plus des champions d'arène, maintenant tu fais le tour des îles et tu bats des doyens.
C'est plus scénarisé, entre guillemets. Non.
Voilà. T'as un aspect tourisme un peu, c'est à la légère, tu vois. Même
c'est plus facile d'accès.
Le professeur Pokémon, celui qui t'enseigne tout, c'est plus un vieux sage qui te dit les choses de façon très formelle. Il est torse-poil et puis il dit tranquille.
Cool,
il m'appelle Miss tout le temps, ça commence à m'énerver un peu.
C'est vrai, ouais.
Je me posais aussi une question. Est-ce qu'il y a une composante multijoueur? C'est-à-dire, entre consoles, est-ce qu'ils ont exploité ça ou pas?
Énormément. Et puis, il y a aussi des événements communautaires. J'ai vu qu'il y a un challenge où, en deux semaines, il y a 100 millions de Pokémon qui doivent être attrapés, je crois, par la communauté. Et on participe en ligne, chacun de son côté. Donc, c'est rigolo. Enfin, on sent que le jeu est aussi soutenu de ce côté-là. Puis, je pense qu'il y a des mises à jour qui vont arriver aussi prochainement.
Pokémon, Lune et Soleil.
Et juste ajouter des chiffres. On a déjà eu quelques chiffres de vente. Donc aux États-Unis, en fait, c'est le jeu Nintendo qui s'est le plus rapidement vendu en une semaine. C'est 3,7 millions aux États-Unis
en deux semaines,
2,3 millions au Japon, 1,5 million en Europe et en tout donc 7,2 millions.
Il fallait approvisionner 10 millions de cartouches. C'est ça qui est ouf.
Et là, il y a des rumeurs. Je ne sais pas si c'est toi qui suis bien la série. Il y a des rumeurs d'une version Switch qui serait un supplément à ces deux versions. Je ne sais pas si tu penses que c'est crédible ou pas.
Je ne sais pas. Mais ils font toujours des demi-versions après le.
Oui, c'est ça. Il y a toujours une version prime un petit peu qui arrive. C'est pas complètement impossible d'avoir une version Switch dans les mois qui viennent.
On regardera ça. Et vous êtes retourné sur Pokémon Go? Non. Si toi, t'es retourné sur Pokémon Go.
Ouais.
Mais moi, j'ai recroisé des gens sur Pokémon Go, alors que ça faisait 2 mois, j'avais vu personne sur Pokémon Go. Et dans la rue, j'ai croisé des gens.
10 minutes et puis je suis reparti.
Voilà, il n'y a plus personne, c'est ça, c'est fini ou ça?
Ah si, non, non, non. Quand tu regardes les classements Android, ça fait encore partie des applications les plus rentables. Donc c'est, en tout cas, sur Android.
Non, mais t'as toujours des gens qui n'arrivent pas à décrocher. C'est comme les gens qui sont sur Cookie Clicker encore aujourd'hui.
Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ou sur Hearthstone.
sans les citer. Ouais, sans les...
Bref, allez, c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TripTrac.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Le joueur de jeux de société adore les boîtes énormes, gigantesques, qui pèsent 1,5 tonne, remplies de matériel qui va durer des heures et qui coûtent surtout une fortune. Mais le joueur de jeux de société aime beaucoup aussi les toutes petites boîtes de rien du tout, comme celle-ci, qui coûte quasiment rien du tout. C'est Fuji Flucheux, c'est signé Friedman Friseux. C'est pour 3 à 8 joueurs à partir de 7 ans pour des parties qui vont durer une quinzaine de minutes. C'est édité en français par Edge. Alors que nous propose Friedman Friseux, qui est un auteur extraordinaire, quelqu'un qui est spécialiste des jeux de ressources, cube bonbon gestion, mais aussi amateur de petites mécaniques fines, et c'est ce que nous propose Fuji Flucheux. Il nous propose un jeu de cartes, 2 défausses. La défausse, le principe est simple, vous avez des cartes à la main, et à la fin de la partie, vous devez plus en avoir. Le premier joueur qui n'a plus de cartes en main est déclaré grand vainqueur. Les cartes sont simples, elles comportent des numéros de 2 à 20, il y a un 20, il y a pas mal de 2, et c'est réparti comme ça de manière calculable. L'idée globale et générale, c'est qu'à votre tour, vous allez avoir 6 cartes en main, et vous allez en poser une devant vous. Et on regarde ce qui se passe. Si la valeur de votre carte est supérieure aux cartes des adversaires autour de la table, ils virent leur carte et ils en piochent une autre. Si à un moment donné on revient jusqu'à vous et que votre carte est toujours présente devant vous, ben vous la défaussez simplement et vous ne repiochez pas. Et là vous avez compris comment on vide sa petite main. Eh oui, sauf qu'il y a quelques subtilités. Quand 2 joueurs ont des cartes identiques, de valeur identique, elles s'additionnent. C'est-à-dire que si j'ai un 4, que mon voisin joue un 4, ça fait 8. Si le suivant a un 7, sa carte elle saute. Un 1-1, on commence à voir les alliances et les désalliances. Bref. On se rend pas bien compte à l'explication comme ça, verbalement, ce que cela peut donner, mais c'est fin, c'est subtil, c'est rapide, c'est amusant, c'est chafouin, c'est retors, c'est super plaisant, et surtout, ça coûte 10 euros, c'est rien pour un petit jeu de cartes comme ça, aussi fin, aussi subtil. Friedman Friseux est une espèce de génie. Fuji Flucheux, c'est un excellent petit jeu, c'est pour 3 à 8 joueurs, les parties à 3, 4 n'ont rien à voir avec les parties à 8. À 8, c'est de la folie. Ça coûte 10 euros, ça dure 15 minutes, 10 minutes. À partir de 7 ans, c'est chez Edge. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Il faut y aller, c'est trop bien. Et ils font même des lives Facebook où on les revoit jouer en live.
Génial.
La dernière fois, là, hier, là, c'était Harry Potter. Ils jouent en live au jeu Harry Potter, au jeu de plateau Harry Potter. Enfin bref, voilà, c'est toujours très bien TrickTrack. Voilà. Et puis maintenant, on va s'attaquer au gros morceau quand même, à un des gros morceaux qu'on attendait fin septembre. Qui a nécessité 2 mois de travail en plus.
On n'en était plus à ça près.
On n'était plus à ça près parce que ça faisait un petit peu depuis 2006 qu'ils étaient sur l'affaire. Au début, ça s'appelait Final Fantasy Versus 13. En 2012, ça a été renommé Final Fantasy 15. Et c'est sorti...
Tout ça. C'est Dallas, quoi.
C'est beaucoup de choses.
Et ça vient tout juste de sortir Final Fantasy 15. I kill you, my natural sign is much worse. Are we doomed? Pretty sure we're doomed. So get this. I'm living life in the fast lane. Moving at the speed of life, and I can't slow down. Only got a gallon in the gas tank. But I'm almost at the finish line, so I can't stop now. Meaning I'm on fire off the top. Mike on the back of the data. Rolling over hip hop in a verbal tractor trailer. Homie, they spin. I make that truck like a sack of potatoes. You more stick that on my chain. It's really out along inside a tank. On ne savait pas Final Fantasy aussi hip-hop. Et...
c'est clair.
Et voilà. Final Fantasy XV, c'est un peu le Final Fantasy hip-hop. C'est un peu le premier épisode d'une nouvelle génération un peu plus urbaine, un peu plus moderne de Final Fantasy. On l'attendait, ouais, je l'ai dit juste avant le trailer.
C'est un développement de L, comme on
C'est un développement voit, de 10 ans. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un développement de 10 ans? Parce qu'il y a eu, il y a eu 6 ans de pré-production. Mm-hmm. En 2012, quand Hajime Tabata a repris les rênes, d'abord en tant que co-réalisateur, puis en 2014 en tant que réalisateur. En 2012, ils n'avaient pas vraiment commencé le jeu. Enfin, on avait diffusé des trailers.
6 ans après les débuts de l'annonce. Enfin, puis on imagine la pression, parce que c'est quand même la série canonique de l'éditeur Square Enix. C'est quand même la locomotive.
C'est une série qui avait du mal à retrouver un peu son statut de JRPG phare.
Qui permet aussi à brasser pas mal de monde. Hein. Enfin, on se rappelle du phénomène du 7 en Europe, qui était le premier, je crois, commercialisé officiellement en Europe, qui avait pu faire un vrai phénomène, qui avait popularisé le jeu de rôle japonais. Donc,
C'est un chef-d'œuvre. Hein. Enfin, Cloud. Voilà, oui, je peux plus toucher un Final Fantasy sans penser au 7. Quoi.
Le 7,
c'était un chef-d'œuvre. En termes d'écriture, c'était magnifique. En termes de gameplay, c'était juste extraordinaire.
Ouais, en tout cas, pour ceux qui jouaient à l'époque et qui avaient la PlayStation au moment où c'est sorti, c'était une claque.
Il y avait autre chose, ça proposait autre chose
au niveau des émotions, au niveau de l'univers, au niveau de plein de choses. On découvrait la vie, en fait.
Et on découvrait, nous, en tant qu'Européens, cette licence, en fait, cette série. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui de ce jeu, parce que j'ai noté les premiers mots lorsqu'on lance le jeu, c'est que c'est un jeu fait pour les fans et les nouveaux venus. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur Pokémon. C'est étrange, c'est deux jeux qui sont des jeux de rôle. Donc là, on n'est plus sur du jeu de rôle action RPG, mais en tout cas, il y a une vraie volonté, je pense, des deux, de, à la fois, comme tu disais, satisfaire les fans hardcore qui suivent depuis longtemps, et en même temps, une nécessité d'ouvrir et de faire venir d'autres personnes.
Moi, je la trouve très symbolique de beaucoup de choses, cette phrase qui ne veut rien dire, ce jeu est pour les fans, les nouveaux venus, allez mourir, ou alors, si vous avez déjà joué à un Final Fantasy, ne jouez pas à celui-là.
Si vous avez déjà joué, merci, tu reboot. Non,
c'est que pour les nouveaux venus, ceux qui ont déjà joué.
C'est propre de tout jeu dans une série, c'est de...
Mais en même temps,
c'est assumé, c'est dit tout de suite.
C'est très symbolique qu'ils se sentent obligés de le dire, parce que grosso modo, ils ont fait un jeu qui ressemble tellement à rien, mais tellement à tout,
et tellement
foutraque qu'ils se sont dit on va prévenir les gens quand même.
Si vous avez joué,
c'est pour vous. Si vous n'avez pas joué, c'est pour vous aussi. Vous inquiétez pas, surtout vous inquiétez pas.
On va tous se réunir autour du jeu.
On est tous ensemble, on est une grande famille. Venez jouer. Elle est assez symbolique du côté un peu porte-nawak de Final Fantasy.
C'est un jeu qui tente beaucoup de choses. On pourra en parler des heures.
Joël, je te laisse la main.
Moi, j'en étais resté il y a eu le Final Fantasy XIV, qui était un jeu en ligne, un MMO en ligne qui avait été très décrié à sa sortie.
Qui avait été modifié aussi, ils ont bossé dessus.
Moi, j'en étais resté aussi au Final Fantasy XIII, qui était une espèce de jeu en couloir avec des personnages, les personnages un petit peu type qu'on trouve dans les Final Fantasy, c'est-à-dire
très
un petit
peu
très classique. Moi, j'avais pas vraiment accroché, quoi. Même aux personnages, j'ai trouvé un peu.
Le couloir du début était très cool.
Des 15 premières heures,
c'était assez pénible.
Le début du jeu était assez aride.
Alors là, changement complet, vraiment changement d'atmosphère. Là, on se retrouve avec ces quatre jeunes hommes, quatre ados, quatre jeunes adultes qui sont vraiment à la page, on va dire. Ils ont leur smartphone, ils ont leur doudoune. On peut les customiser comme on veut, mais presque.
Quatre archétypes.
Alors, c'est vraiment les quatre archétypes, archétypes des ados japonais, quoi, des jeunes adultes japonais avec leur coiffure, leur mèche.
Il y a le prince, le mec, plutôt l'intello, le prince, c'est un peu le type émo.
Il y a le baraquet qui est torse nu, tiens, lui aussi, torse nu.
Il y a l'intello, un peu très intelligent,
qui déconne toujours.
Et donc la proposition de Square Enix, c'était déjà d'avoir un Final Fantasy en monde ouvert. Alors là, pour le coup, moi j'ai joué une petite dizaine d'heures. Pour le coup, là, on n'est pas déçu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a vraiment ce monde ouvert où on peut à la fois marcher donc, à pied, on peut être en chocobo, on a sa voiture. Moi, j'adore la voiture, qui s'appelle la Regalia, qu'on peut tuner, voilà, accessoiriser. Je trouvais ça vraiment très, très, très sympa. Et alors, les choses que j'ai commencé d'abord par les choses qui m'ont fâché dans ce Final Fantasy. Toutes ces maladresses. Le tutoriel au départ. C'est-à-dire, en 2016, un jeu avec un tutoriel séparé au départ, c'est. Ça se fait pas, c'est assez. Voilà.
Bon, non, et puis il est long, et puis ils t'apprennent plein de trucs que tu sais que tu vas oublier ou tu vas.
Ça se fait pas.
Quand même, t'apprends à te déplacer, à te positionner en hauteur, etc.
Des choses que. Ça se fait pas, normalement, c'est gênant. En plus,
tu introduis un jeu de manière plus fluide.
Je ne comprends pas pourquoi ce tutoriel existe, vu qu'en fait, le début du jeu commence comme un tutoriel où ils auraient pu très bien insérer des scènes, genre on va vous expliquer comment balancer, faire votre éclipse en hauteur pour.
Cette chose rustique dans le jeu.
Autre chose justement qui est assez un peu déplaisante, c'est une introduction au nouvel univers qui se fait simplement en regardant des tableaux. C'est-à-dire qu'on a personnage, et donc on se présente devant chaque tableau, on dit « Ah d'accord, l'univers c'est ça, point barre.
C'est des tableaux
sous-titrés. Voilà, on s'approche.
Ils te disent, vous êtes dans cet univers, il y a un cristal dans votre ville qui est hyper puissant et que le roi Lucius.
Et tu dois apprendre ça et que tu es censé savoir ça par cœur. Voilà. Donc, c'est pas très intéressant.
Il faut savoir que si on n'a pas lu, comme c'est mon cas, parce que je suis désolé, je commence un jeu. Déjà, je viens de passer 10 minutes à m'essayer à faire de la baston et tout ça. Et on me dit, je vais découvrir l'univers. Alors là, tu t'attends à ce qu'on te raconte et tout ça. Et là, tu te découvres dans une pièce. Tu vas avoir des tableaux et là, tu dois le lire. Et là, j'ai dit non, j'ai envie de commencer le jeu. Et puis, on est dans Final Fantasy. Donc, il va y avoir des belles cinématiques qui vont tout m'expliquer, qui vont introduire tous les éléments et je vais tout comprendre.
C'est un des soucis, je pense, c'est que. En fait, il s'inscrit dans un projet transmédia, entre guillemets, avec un film Kingslave, une série d'animation en court-métrage. Et à mon avis, le souci, c'est que si on fait que le jeu comme moi, c'est-à-dire que j'ai pas vu le film, j'ai pas vu la série, on est un petit peu largué. Enfin, il y a des événements qui sont pas bien expliqués dans le jeu, des événements importants en plus dans le déroulement de l'histoire, qui font que on est un petit peu largué et qu'on sent qu'il y a vraiment une nécessité de voir ces éléments qui, normalement, dans le transmédia, la règle, c'est que chaque élément doit se suffire à lui-même. Ouais. Et on devrait pouvoir jouer le jeu sans problème et puis avoir peut-être envie d'aller découvrir le film en plus. Mais là, on sent que sans avoir vu le film,
c'est ouvert aux nouveaux joueurs. Par contre, tu as besoin de les foutre dans une pièce avec des tableaux pour qu'ils se remettent à niveau.
Si tu veux saisir l'univers...
C'est les nouveaux comme les anciens. Parce que, alors, petit rappel, Final Fantasy. Qu'est-ce qu'un Final Fantasy ? C'est un jeu qui n'a rien à voir avec le précédent.
À part petits clins d'œil, quelques petites notions.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel univers on va débarquer dans un Final Fantasy. Là, il y a des points communs avec les Final Fantasy d'une manière générale. Il y a des points communs avec la Bible Final Fantasy issue du 13 avec les falsies, les trucs.
Il y a une colonne vertébrale.
Mais bon, c'est un grand.
La colonne vertébrale, c'est quand même qu'il y aura. C'est de la fond. Enfin, après, c'est les bases. C'est de la fond. Enfin. C'est dans le titre, hein. C'est un univers de fantasy qui vire parfois plus ou moins du côté science-fiction ou pas parfois, ou science-fiction ou magie. En fait, il y a vraiment un équilibre dans ces Final Fantasy.
Personne ne sait ce qui définit un Final Fantasy. Je pense que les créateurs eux-mêmes, j'avais posé la question. Non, mais j'ai posé la question à Hajime Tabata, le réalisateur de Final Fantasy 4. Je lui ai dit,
l'ADN, c'est quoi ?
C'est quoi ? Expliquez-moi, Final Fantasy, c'est quoi ? Et il m'a dit, les gens qui bossent dessus savent. Dans mon équipe, moi j'ai des gens qui ont bossé sur tous les Final Fantasy. Ils connaissent l'ADN de Final Fantasy et ils l'ont mis dans ce Final Fantasy 15.
D'accord.
Voilà. D'accord. Et donc, tu te rends compte que personne ne sait. C'est que juste un Final Fantasy est un Final Fantasy parce que c'est marqué Final Fantasy.
Non, mais
c'est
important. Ou alors ça ressemble peut-être aux gens qui le font.
Non, mais c'est important parce que derrière le mot Final Fantasy, il y a tout un ADN, il y a tout un passé, on en parlait. Il s'appellerait, il aurait un autre nom, ce serait un nouveau jeu qui se lancerait, on le verrait différemment. Là, quand on attaque un Final Fantasy, on l'attaque toujours en ayant en tête l'ADN, l'histoire de la série. Donc, ce qui veut dire qu'on l'aborde aussi en se projetant toujours sur les précédents jeux, on le compare toujours à ce qu'il y a eu avant. C'est important. C'est important de savoir que ce qui s'inscrit dans cette tradition, dans cet ADN, qui est très modifiable, très malléable.
Mais c'est vrai.
C'est ce qui lui donne un... c'est ce qui lui donne une importance, hein, Final Fantasy, quand
pour,
il sort.
Pour évacuer l'aspect, l'aspect scénaristique, on va parler du reste ensuite, mais pour évacuer l'aspect scénaristique, c'est ce que tu as dit, c'est une erreur totale d'utilisation du transmédia, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que pour apprécier, entre guillemets, l'univers de Final Fantasy XV, il faudrait voir Kingslave, donc le long-métrage d'animation, sauf que Kingslave, si tu joues pas au jeu, tu comprends rien non plus.
Ouais,
et
ça,
il faudrait voir Brotherhood, mais Brotherhood est tellement lié au jeu que finalement Kingslave, enfin, c'est-à-dire que ces trois éléments qui sont cohérents ensemble, mais qui sont inutilisables pratiquement indépendamment les uns des autres. Du coup, c'est alors que justement le transmédia, l'idée du transmédia, c'est de faire trois éléments qui sont indépendants les uns des autres, qu'on peut apprécier indépendamment et qui s'enrichissent mutuellement.
Bah oui.
Et c'est là où c'est compliqué. Donc,
là, c'est là où ça.
Compliqué. Et c'est vrai que du coup. Autant on apprécie, enfin moi, on rentre très facilement dans ce Final Fantasy XV. C'est très agréable. La scène d'intro où on pousse la voiture parce qu'elle en panne d'essence est exceptionnelle.
Mais c'est génial. Ça fait partie. C'est là où on se dit que ça va être un jeu un peu what the fuck, quoi. C'est-à-dire, effectivement, pousser une voiture en écoutant Stand By Me, interprété par Florence and the Machine, on se dit, ah, ça va pas être un Final Fantasy comme les autres, quoi.
C'est ça. Et on rentre très facilement dedans. On s'accroche au personnage, on s'attache au personnage. Personnages très facilement parce que c'est vraiment des archétypes qui sont bien construits et en même temps on passe complètement au travers du scénario, au travers de l'univers surtout. C'est du l'univers.
Est-ce si grave ? Moi c'est la question que je vais poser. Est-ce que c'est si grave que ça ? Parce que je suis d'accord, mais en fait on rentre super bien dedans. C'est un jeu très très bizarre. C'est vrai qu'il est, on sent qu'il y a un patchwork de plein de choses. Comme tu disais, Joël, il y a du de l'open world. C'était la promesse de Moi, j'ai l'impression d'un jeu sucré-salé. Alors, on aime ou pas le sucré-salé, parce que c'est vrai que ce sont des recettes particulières. Il faut avoir le palais qui apprécie ça.
Je dirais plutôt du doux-amer, hein, mais bon.
Non, mais c'est vrai, je regardais, on est à la fois sur du rétro au côté gameplay, parce qu'on est quand même sur des combats RPG, on est quand même sur des racines de Final Fantasy un peu rétro, avec un ADN qui est toujours là depuis 30 ans.
Il y a de l'action. Enfin, c'est
et en même temps, on est entre du rétro dans les principes et du moderne avec la notion de monde ouvert. On est entre un jeu très japonais dans la conception, parce qu'on est sur une licence typiquement japonaise, mais en même temps très occidentalisée, avec la notion d'open world, avec un univers très occidental, très moderne. On est à la fois sur un souffle épique, parce qu'on a quand même un scénario qui nous emmène vers quelque chose d'impressionnant, et en même temps, on a ces quêtes annexes complètement anodines et même complètement absurdes.
Transporteur.
Moi, je cherchais des grenouilles rouges hier, j'ai galéré pendant une heure.
Aller chercher à bouffer pour un chat. Enfin,
mais oui, mais c'est pareil. On va pêcher, mais je l'ai fait parce que le chat, il est là, puis on veut le nourrir, donc on y va. En fait, il y a un mouvement dans ce jeu. C'est-à-dire que le scénario, finalement, on sent qu'il se passe des choses graves, c'est pas très bien expliqué, mais en même temps, ce qui compte, c'est ces quatre personnages, comme tu disais, ils sont. Moi, je trouve qu'ils sont bien dessinés, ils parlent bien. Vraiment une notion, enfin une mention particulière, la VF qui est
très
bonne.
Bien. Ah ouais, pour une fois, là,
parce qu'on n'a pas, du coup, on n'a pas à lire les sous-titres, on est vraiment emporté dans le côté monde ouvert, on vit le jeu et les dialogues sont vraiment marrants, il y a des vrais échanges rigolos. Et ce qui est important, je trouve, c'est que c'est. On s'attache vraiment à chacun des quatre personnages, alors qu'au début, on voit plutôt des archétypes un petit peu lambda.
Hein, je trouve qu'ils ont.
Moi, je trouve qu'au contraire, le jeu, il est articulé pour resituer un petit peu.
À part être des archétypes, je trouve qu'ils n'ont aucune personnalité et aucune profondeur.
Je trouve qu'au contraire, il y a ces échanges pendant tout le jeu, ils se parlent, c'est-à-dire que pendant les combats, on se parle, il y a des échanges avec les personnages.
Sur la météo,
et le jeu est fait d'une façon où, en fait, on doit faire des pauses régulièrement, on doit se poser la nuit, on évite la nuit parce que les ennemis, les monstres sont plus agressifs, donc on fait un feu de camp, donc les personnages se retrouvent, il y a des animations, tout ça est fait en motion capture, on voit les personnages qui s'installent, qui discutent. Donc c'est les moments qui sont importants dans le jeu, parce que c'est là où on récupère toute l'XP qu'on a acquis pendant la journée.
Idée, d'ailleurs.
C'est
ça, c'est
il faut
une très bonne
s'arrêter,
idée.
Ouais. Aller à l'hôtel ou faire un campement. Et ça vaut le détour pour les animations. Et c'est marrant, c'est que le jeu prend parfois le temps de créer des dialogues entre deux personnes, entre le héros et un des personnages. On va se lever le matin pour aller courir avec l'un, on va se lever le matin un autre jour pour aller faire la cuisine avec l'autre. Mais je trouve qu'il y a
Mais Patrick, en quoi ça leur donne une personnalité ? Ils n'ont pas de passé.
Tu sens bien que le scénario, c'est
mais non.
On joue pas sur le passé. Je trouve qu'on est vraiment sur un mouvement. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc qui marche bien dans cette équipe avec ces échanges pendant tout le jeu. Et ça marche bien. Et encore une fois, je trouve qu'on est ce qui marche bien, moi, c'est un jeu de mouvement. C'est-à-dire qu'on est dans un road trip. Moi, ça m'a fait penser à l'âge de cristal. Mais bon, c'est parce qu'il y a ce... Je ne sais pas si ça vous parle, l'âge de cristal. Non, c'est quand même. Avec ce véhicule où on avait... Bon, là, c'était un couple qui, avec un robot qui passait. Voilà. Mais alors, voilà, il y a ce véhicule qui est central et qui fédère ce road trip avec ces personnages qui vivent leurs aventures, etc. Et c'est vrai qu'on a, dans la première partie, parce que moi, je suis comme toi, je suis à 9-10 heures de jeu, je ne suis pas arrivé à la deuxième partie où, visiblement, le monde ouvert passe en retrait, ça s'arrête et on rentre sur un quelque chose... beaucoup plus linéaire, ça je ne l'ai pas encore atteint et je pense que là c'est là où on perd un peu cet intérêt du monde ouvert qui, mine de rien, nous donne envie d'explorer. Moi j'ai commencé à me balader dans la carte, on découvre des créatures et puis il y a ce côté leveling aussi, un peu à la Pokémon, où on a envie d'avancer, on a envie de...
Je reviens parce que je n'ai pas terminé sur les maladresses. Il y en a d'autres. Il y a une caméra qui est brouillonne, une caméra qui suit très mal.
Surtout dans les combats.
Qui parfois donne une impression de bordel absolu, on ne comprend pas toujours très bien ce qu'il faut. Heureusement, ils ont incorporé ce qui s'appelle un mode stratégique qui permet de figer, qui fige automatiquement le temps dès qu'on ne fait pas d'action. Et donc, du coup, on a un peu de temps.
Le temps réel marche bien, je trouve. Ça devient presque du beat'em all. Moi, je suis en temps réel, je trouve que ça marche plutôt bien, à part la caméra qu'il faut un peu.
Autre truc que je trouve un peu gênant, c'est la première personne féminine qui nous est introduite. C'est un peu. Alors, c'est un jeu avec quatre gars, pourquoi pas, quatre jeunes gars. Et la première personne féminine qu'on rencontre, c'est Cindy, la mécanicienne. Vraiment, la nana en mini short et à gros seins.
Non, mais c'est clair.
Ouais, mais c'est clair. Il y a quand même gênant, un petit problème.
Moi, pour moi, sachant quand on sort quand même d'un Final Fantasy XIII et surtout d'un Final Fantasy XIII 2 avec des personnages féminins forts, c'est Lightning entre autres, qui était intéressant. Enfin, c'était intéressant. Et là, on se retrouve avec un truc quand même. Beaucoup de testostérone dans le groupe des personnages. D'accord, moi, le premier personnage secondaire à qui tu parles.
Et oui, tu te dis, mais pourquoi? C'est le cliché. Il y a tous les clichés possibles dans ce personnage.
Après, ça.
Mais il aurait pu avoir une nana dans le groupe. Ça aurait été rigolo d'avoir une nana dans les quatre.
On va laisser les affres de la création du côté.
C'est un côté boys band, mais bon, après, moi je trouve qu'ils font plus un côté boys band de la J-pop. Mais bon, voilà. Parmi les trucs qui ne marchent pas très bien, alors je trouve que la l'XP qu'on ramasse, qu'on ramasse au fur et à mesure, et que le soir on assimile, je trouve que c'est une bonne idée, mais il y a une espèce de superposition en fait je ne saurais pas comment qualifier ça, une superposition entre les points de compétences, l'XP, espèces de points d'aptitude
points de
personnelle.
Vie, points de magie,
En fait, on s'y perd. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des couches de.
Des couches de points,
on ne comprend pas très bien.
L'interface reste agréable et on ne se perd pas trop.
Mais je trouve que les couches de progression ne sont pas très bien gérées. Mais effectivement, il y a un côté vraiment très agréable dans le jeu, c'est ce côté un peu foutraque. Ce côté où il y a un mini-jeu, c'est un jeu de flipper, super drôle. Il y a la pêche, c'est une aptitude.
Les photos de Prompto, à chaque fois qu'on se couche, on a une sélection de photos, un peu façon Instagram, où un des personnages balance des selfies, des cadres, des choses comme ça sur la journée qu'on vient de passer.
Pour moi,
Qui sont sympas.
Pour moi, c'est ce qui rend aussi ce volet important, c'est que le jeu est loin d'être parfait, il a plein de défauts, on en a parlé, mais pour moi, il restera symptomatique d'une époque. Enfin, c'est pour moi le premier Final Fantasy qui essaie de matcher à la fois son ADN historique et l'ère du temps, avec les selfies, les mobiles, on voit les persos tout le temps avec leur portable. Il y a un mix qui encore une fois, c'est une recette qui peut plaire ou pas, c'est un peu particulier d'avoir à la fois une voiture réaliste, les portables, etc., dans le monde Final Fantasy. Mais c'était osé, je trouve, de faire ça. Et ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien.
Et un barman qui ressemble à Forest Whitaker. Je sais pas, vous n'avez pas
Mais je pense qu'il restera... C'est un peu un ovni qui restera un témoin de cette époque. Enfin, il reste important, ce jeu, je trouve. Cette volonté de mixer comme ça plein de choses différentes, l'air du temps... Et un ADN historique de RPG japonais.
On pourrait
entre
passer.
Tradition et modernité.
J'ai pas osé.
On est presque dans Pokémon. Enfin, on en revient au Pokémon. Ah,
exactement.
On pourrait passer beaucoup plus de temps sur ce Final Fantasy XV, mais nous avons un troisième jeu dans cette émission. Et quel jeu parce que on l'attendait, en tout cas les un peu les fans du genre l'attendaient depuis 10 ans, un peu comme l'année dernière où nous avions eu City Skyline.
Encore un jeu qui a été attendu 10 ans.
Après, c'était après SimCity 4. C'était un city builder majeur après SimCity 4. Et là, après Roller Coaster Tycoon 3. Qui datait de 2004, eh bien, nous n'avions plus de gestionnaire de parc d'attractions. Et il a fallu attendre les auteurs de Roller Coaster Tycoon, les gens de Frontier Development, et qui nous ont sorti un Planet Coaster de toute beauté. On regarde le trailer. Planet Coaster, donc de Frontier Development. Alors, deux modes de jeu principaux. Le mode de jeu, on fait ce qu'on veut. Et le mode de jeu, vous avez de l'argent à gérer.
Ouais. Pour revenir sur la petite histoire quand même, il y avait donc un Roller Coaster Tycoon 2, Roller Coaster Tycoon 3. Et on a attendu Roller Coaster Tycoon 4 qui n'est jamais venu. On a attendu 10 ans. Et moi, je l'ai vraiment attendu, année par année. Donc, c'est long, 10 ans. On ne se rend pas compte comme ça de l'extérieur. Et à un moment, on l'entend, ça y est, il va y avoir un Roller Coaster Tycoon 4. Et donc, excitation intense et tout, truc de fou. Après, il y a déjà des gens qui sont en train de le tester, ils disent que c'est de la merde. Ah bon ? Alors, grosse déception. Et en fait, il y avait une petite histoire derrière, c'est que donc c'était Atari qui éditait ces jeux, et Atari s'est débarrassé des développeurs qui avaient fait ce jeu et l'a fait avec de nouveaux gens. Donc ils ont gardé le nom Roller Coaster Tycoon et ils ont fait de la merde avec un nouveau studio. Mais
ce qui nous apprend que Atari bouge encore.
Oui,
ils sont encore.
Je ne savais pas. Je ne savais pas.
Il remue un peu les pattes.
C'est ça. Et des poules qui ont coupé.
Mais du coup, les développeurs qui ne sont plus chez Atari, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Ils font la même chose avec un nouveau nom. Et eux, c'est eux qui savent faire.
Ils savent faire des jeux quand même.
Voilà. Et ils ont la liberté de faire ce qu'ils ont voulu faire depuis toujours, en enlevant toutes les contraintes qu'on a pu leur imposer. Et ça donne Planet Coaster. Et en fait, c'est juste trop bien. Alors oui, deux modes de jeu.
Non, mais en fait, c'est parce qu'on on a commencé le jeu tous les deux, mais avec deux approches différentes. Moi, je suis rentré tout de suite par l'aspect gestion, où on a son budget à gérer, où on commence avec des petites attractions, où on attend d'économiser pour avoir sa première montagne russe, et son premier coaster. Et puis, on gère les trucs petit à petit, on essaye de ne pas être trop dans le rouge, on fait des emprunts et tout. Et puis, en fait... Je me rends compte que pour les fans, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience dans les Roller Coaster Tycoon. Bon, j'y ai joué, mais pas en tant que passionné. Et c'est vrai que pour les fans, pour les gens qui sont dedans, toi, tu t'es rué vers le mode libre.
Ah, mais bien sûr.
J'ai tout et je vais faire le parc d'attractions de mes rêves.
J'ai plus de 10 ans de frustration à évacuer. Ouais. Il fallait que je décharge tout ça dans le mode bac à sable.
Ouais.
Donc déjà, tu commences par aller dans les montagnes russes. Donc, tu en as qui sont préconstruites. Ou alors, tu prends le tracé, tu choisis tes rails et tu construis toi-même, boss par boss. Donc déjà, tu les poses toutes sur le terrain vide, comme ça, et tu les essayes. Et ce qui est génial, c'est que quand tu t'y connais un parc d'attractions, quand tu t'y connais en attraction, tu reconnais la marque. Tu reconnais, ils ont...
Parc d'attractions.
Oui. Elle est passionnée.
IRL est dans les jeux.
D'accord.
Tu reconnais la marque, en fait, au rail, tu as ceux qui ont un gros bloc carré de métal au milieu.
C'est des trucs puristes,
selon la forme des rails, tu reconnais vraiment les vraies attractions de la vraie vie, tu reconnais même le tracé de certains. Alors, tu as ceux qui sont propulsés et ensuite ils montent, il y a ceux qui sont en bois, qui redescendent. Il y a ceux... Il y a ceux avec les sièges qui bougent en même temps qui font les boss. Et tu les essayes et c'est super réaliste. T'as même la trace des trains qui sont passés sur les rails, t'as l'usure par-dessus les rails.
Est-ce que tu peux avoir des accidents mortels ?
Oui, bien sûr, c'est vrai, ça fait partie du jeu. Tu construis ton coaster, tu le fais monter très très haut, tu le fais descendre et là tu arrêtes le rail et le train s'explose par terre. Et tu peux monter dedans, tu as le mode point de vue, tu sais, tu l'essayes avec la caméra.
Il n'y a pas une option réalité virtuelle pour on pourrait essayer son monde, ça serait cool ça.
C'est le jeu qui veut bosser, enfin qui veut fonctionner avec la réalité virtuelle.
Et surtout Frontier, ils ont fait Elite Dangerous 2.
Pour l'instant, il n'y en a pas.
Ils savent le faire.
Mais ils savent le faire et on leur a posé la question interview et la réponse a été: nous sommes spécialistes de la VR et nous savons très bien le faire, nous ne pouvons rien vous dire de plus pour l'instant.
Bon, bah, donc, voilà.
Ça va arriver.
En tout cas, moi, de mon point de vue de néophyte, c'est un truc ouais, fascinant parce que en fait je vais aller très vite parce que bon, moi je vais te redonner la parole très vite, mais ce qui est vraiment génial en tant que jeu de gestion que builder, c'est qu'un city builder, en fait tu poses des zones et c'est l'interaction entre les zones et la géographie et la topographie des zones qui crée le mouvement, qui crée l'économie, qui crée ta ville, qui crée comment ça marche, comment tout marche ensemble en fait. Et en fait un gestionnaire de parc comme ça, c'est la même chose, sauf qu'il y a les coasters. Et en fait, les coasters sont des éléments distincts, c'est-à-dire qu'ils attirent un public, ils ont un coût de fonctionnement, ils ont tout ça. Mais en même temps, il a ses paramètres propres que tu vas pouvoir gérer en dessinant ton propre coaster. Parce qu'il y a ces trois indicateurs qui sont la peur, l'excitation et la nausée, qui sont trois indicateurs qu'il va falloir tester. Et en fonction des parcours que tu fais, de l'angle de tes rails, au moment où tu gères le virage, si tu ne l'as pas mis bien ou si tu l'as mis bien pour que l'angle soit bon, et ben en fait, tu vas avoir des montées de nausée, des descentes. Et donc, c'est les coasters en eux-mêmes, la construction d'un coaster devient un jeu à part entière, au-delà de l'aspect builder. Et
c'est donc ça, si tu le construis mal, tous les gens sont malades, par exemple.
Exactement.
Tu fais un truc hyper mythique.
Moi, j'arrivais assez confiante dans ce jeu, genre je m'y connais en coaster, je sais comment faire l'inclinaison des pentes par rapport au virage et tout. Je construis mon truc avec une grosse first drop, donc la première descente, qui descend même plus bas que le sol. Alors, ce qui est génial, c'est l'outil de terrain. L'outil de terrain, avant, c'était une plaie sur RCT. Et maintenant, en fait, tu montes, tu descends et c'est tout lisse. Et ce qui est génial, c'est que tu poses ton attraction. Donc, il y a énormément de pylônes qui montent vers les endroits qui sont les plus hauts. Et il suffit de monter le terrain en dessous de ces pylônes et ça crée une montagne qui dépassera pas qui épouse la forme du coaster, en fait.
D'accord.
Tu n'auras jamais de bug, de message rouge qui te dit impossible, terrain bloqué,
bien,
truc.
Bien géré, quoi.
Et si tu continues à monter, ça te crée un tunnel et la montagne va passer par-dessus ton truc et tu te retrouves en souterrain.
Et il y a un marché des attractions, on peut se les échanger entre joueurs. Sur
le Steam Workshop,
bon,
tu construis des attractions et y compris des décors que tu peux partager. Donc je finis juste sur le truc. Je descends ma first drop, je vais en dessous du sol, donc je la fais super longue et tout pour que ça soit un coaster de fou. Et là, je fais le premier test et il me donne à la fin le rapport de statistiques du test. Et il me dit, bah écoute, ta première descente, en termes de force, on descend à 11G.
Combien de morts, les mecs?
Sachant qu'un décollage de fusée, ça tape dans les 6, donc
c'est survivant, quoi.
Mais est-ce que le plaisir est bien plus...
Et personne n'est venu dans mon attraction.
Alors, ils sont pas ressortis,
Est-ce que le plaisir est plus dans la création du parc ou dans la gestion en elle-même? C'est quoi les enfin, bon, je vois qu'effectivement, donc tu dis, on peut créer des choses, des attractions plus ou moins extraordinaires ou délirantes, mais est-ce que c'est aussi dans le plaisir de la gestion?
Le plaisir, il est dans la thématisation du parc.
Parce que tu as les
décors, tu as les commerces.
Voilà.
Cowboy.
Il y a les trains fantômes aussi ou pas du tout?
Non, c'est pas très... ça, c'est vraiment sur une attraction. Il prévoit des thèmes qui peuvent aller sur tout un parc, en fait. Tu peux faire tout un parc sur les pirates ou alors différents quartiers. Et après, le truc bien, c'est que tu peux inventer tes propres thèmes avec... Il y a un stock énorme, en fait, de petits objets et de petites briques de bâtiments. Et tu peux, si tu veux, passer 2h30 à faire un bâtiment pierre par pierre, brique par brique, en rajoutant des petites lampes, en rajoutant des plantes, en tordant un petit peu l'usage premier des objets tels qu'il l'avait imaginé. Et tout ça, ça te fait un bâtiment que tu construis autour de ton module vente de frites, par exemple. Et tu peux faire le restaurant du thème que tu veux si tu passes 2h30.
Et alors, les let's play de Planet Coaster sur YouTube sont des trucs de taré. C'est où ils te montrent comment ils construisent et le coaster et la maison qui fait le départ et tous les éléments, les rochers, tout ça. Ils arrivent à faire des décors. Ce qui te fout des complexes en tant que joueur,
c'est
parce
clair.
Que moi, gestionnaire de mon petit parc, il faut gérer les files d'attente pour arriver aux attractions et pour pas que les gens s'ennuient, il faut mettre des décors. Moi, je pose des trucs, mais je mets des ailes de vaisseaux spatiaux à côté de cow-boys, à côté de trucs, pour que mon pourcentage ne
augmente. À l'arrache,
Et toi, tu t'y prendrais comment?
Le jeu... Bah, déjà, faut être.
Que dire, non, on a l'impression que t'as une autre.
Faut être cohérent, faut être cohérent. Il faut que le jeu sait quel est le thème des différents objets, et si tu mets des objets du même thème, et si t'en mets beaucoup, les gens sont plus contents que si tu fais n'importe quoi. Enfin, ils le sentent. Il y a une intelligence artificielle dans chaque bonhomme. Hein. Il a un avis sur, il a un avis sur tout ce qui se passe dans ton parc. Et d'ailleurs, tu peux le, enfin, tu joues avec l'intelligence des gens, mais comme dans la vraie vie, hein, t'as l'impression d'être un monstre capitaliste quand tu places la sortie. Quand tu places la sortie d'une attraction qui débouche sur un chemin où il arrive en face de deux restaurants et une buvette où il est obligé de passer dedans parce qu'il sort, il a soif, oulala, c'était éprouvant, et il s'arrête là et tu lui soutires son fric.
Ah, bah voilà, c'est bien ça.
Et on met des distributeurs de banque aussi pour qu'ils aient toujours du pognon sur eux, faut pas déconner. En tout cas, Planet Coaster est un chef-d'œuvre. C'est vraiment une réussite, même. Enfin, vraiment au même titre que Cities Skylines était une surprise. Planet Coaster, là, au niveau des builders, on en a, on est content.
Le truc le plus fun, la petite cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on appelle les déclencheurs. C'est, t'as des animatroniques, donc vous savez, c'est les personnages ou les animaux robotiques là, qui bougent tout seuls le long des attractions. Tu peux par exemple placer ça ou alors un objet animé comme un tonneau de pirate qui explose juste à côté d'un rail et tu mets un déclencheur, c'est-à-dire que tu dis quand le train passe à tel endroit du rail, et ben, ça déclenche l'événement. Et c'est comme ça que tu recrées en fait le train de la mine dans Disney. Tu passes dans des souterrains.
Avec des scripts en fait, des choses qui se passent.
Ouais, c'est ça.
Quand tu
passes dans un souterrain et au moment où le train passe, et ben, t'as comme des explosions de dynamite, de la fumée qui se déclenche, de la poussière qui tombe du plafond et t'as l'impression que ça s'écroule sur toi.
Largement de quoi perdre sa vie si elle n'était pas déjà perdue dans Pokémon. Hein, mais ça, il faut faire des choix après.
Non, pire.
C'est...
Hein, pire.
Pire. Ouais, c'est pire que Pokémon. Pire que Final Fantasy. Planet Coaster, c'est fini pour le jeu vidéo pour cette semaine. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mais à laquelle vous allez répondre très rapidement parce qu'on dépasse, mais c'était pratiquement prévu avec ce programme de taré. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël ?
Alors, je viens de terminer un livre que j'ai trouvé passionnant. Il s'agit du livre qui a obtenu le Pulitzer pour la non-fiction en fait, cette année, qui vient d'être traduit en France sous le titre « Sous le drapeau noir ». Je préfère le titre anglais qui s'appelle « Black Flags ». Ça se lit en fait comme un thriller et c'est une enquête sur l'État islamique, sur comment il est né dans une geôle en fait en Jordanie avec Al-Zarqawi, un ancien petit truand de base qui va devenir en fait qui va bientôt donner naissance en fait à Daesh et à ses consorts. Le journaliste s'appelle Joby Warwick. Alors il a construit son enquête avec beaucoup de sources, notamment auprès de la CIA, et c'est vraiment passionnant. Ça se lit comme un thriller. Et ça, c'est paru en France, donc au Cherche Midi. Voilà.
Camille,
moi je viens de finir la série Extra, qui est courte. C'est une série britannique de Ricky Gervais. Il y a deux saisons de 10 épisodes assez courts, donc ça se regarde vite. Et c'est l'histoire d'un mec qui fait de la figuration et qui aimerait bien devenir un vrai acteur, voire qui aimerait bien faire son propre film. Et comme avec Ricky Gervais d'habitude, il est spécialiste des situations extrêmement gênantes avec des gens racistes, des gens méchants et tout. Et tu sais pas où te foutre devant ta télé, en même temps t'es mort de rire. C'est vraiment super.
Patrick,
Patrick,
il faut qu'on en parle quand même.
Il faut qu'on en parle.
Patrick fait du Kickstarter.
Eh oui,
c'est quand même.
Alors moi, quand je ne joue pas, j'écris sur le jeu vidéo et sur le jeu vidéo des années 80. Ce qui fait que je joue pas mal en ce moment à des vieux jeux. J'ai ressorti mes vieilles bécanes, un peu d'émulateur aussi pour rejouer pas mal de choses. En fait, je collabore avec le magazine JV Le Mag, qui lance son premier livre sur la culture jeux vidéo. Ça va s'appeler Génération jeux vidéo années 80. Ça va sortir en début 2017, hein, mars, je crois. Et donc, on travaille dessus. Et on parle
Non, mais il faut le dire. Bon, je vais le dire parce que tu sembles un peu gêné comme ça. Quand même, il lance un Kickstarter, 15 000 euros. Et en 24 heures. 24 heures, il remplit.
Ça a très, très bien fonctionné. Ouais. Donc la campagne Kickstarter est encore en route jusqu'au 15 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc le livre début 2017. Et donc on parle des années 80 dans le jeu vidéo, ce que ça a représenté. On sait que c'est une décennie charnière très importante. C'est vraiment une décennie très importante parce qu'on est passé quasiment de la préhistoire en 80 à 89, 90. C'est le début vraiment de l'ère moderne du jeu vidéo. Donc voilà, on va parler de tout ça dans le livre qui sort début 2017.
Non, je peux rien faire. Pardon. Non mais, voilà. Allez, c'est sur Kickstarter, c'est le magazine JV, Génération années 80. Ouais. Et pour ma part, et ben c'est, j'ai découvert une petite, une série télé britannique aussi, qui s'appelle River, qui est sur Netflix, et qui est une série policière, et qui est très très bien, où on voit, où on suit un vieux policier qui essaie d'enquêter sur la mort de sa collègue, et qui enquête, et qu'il a une particularité, c'est qu'il a des visions, en fait, il voit les gens morts à côté de lui, mais il sait très bien, c'est pas surnaturel, c'est-à-dire il sait très bien qu'il est un peu timbré et qu'il devrait pas avoir.
Il est un peu sombre, il est un peu.
Voilà, il est un peu dépressif.
Dépressif sur les bords.
Et en fait, il sait très bien qu'il est que c'est pas des gens réels, mais tout ça, mais il peut pas faire autrement que les écouter et interagir avec eux parce que voilà, ils sont pour lui, ils sont réels. Et c'est très très bien joué, c'est très très prenant. Voilà, c'est sur River et entre autres, en tout cas, c'est sur Netflix. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous. C'était chargé hein, quand même. On est sorti. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life, sur Libération.fr et sur tous les internets aussi. Ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.